Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que la semaine s'est bien passée. Nous allons la refermer ensemble dans un café des sports qui lui ouvre ses portes comme chaque vendredi. Les habitués sont au rendez-vous et surtout le Facebook Live est de retour. Il était forfait la semaine passée. Il a fallu un peu réparer la machine. Aujourd'hui, tout va mieux. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook pour voir le Rémy N'Gono en action. Venez l'admirer et même commenter ses envolées. Salut Rémy.
Salut Hugo. Et je suis très heureux parce que je suis à ma deuxième tasse de café.
Donc vous êtes en forme.
Ah oui.
Remontez à bloc pour ce café des sports. Tant mieux, en face de vous, monsieur Habib Bey, s'il vous plaît. Salut Habib.
Salut Hugo, salut à tous.
Il m'a fui tout de suite là, nous étions dans l'ascenseur.
Ouais, il est arrivé juste après vous. Il refuse de rentrer dans la pièce en même temps que Rémy N'Gono. Ah ouais. Il y a quand même des hiérarchies dans la vie, hein, à établir. Salut Bruno Constant.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Hugo.
Enfin, salut Saïd Hamda.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Votre dernière dans Radio Foot.
C'est ça, peut-être pas, hein. Peut-être avec Alejandro. Ah.
Le mercato est encore ouvert.
Le mercato est encore ouvert.
Je commence déjà à négocier après le prêt, peut-être l'option d'achat, on verra si elle sera levée. Allez, je déroule le menu du jour. En entrée, un sacré morceau. Virgil van Dijk, joueur UEFA de l'année, un défenseur récompensé et récompensé aux dépens de Messi et de Ronaldo. Alors, est-ce la fin d'une époque? On en parle dans un instant. Nous reviendrons également sur le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions, Paris-Real dès la première journée. Voilà qui est très alléchant. Le problème, c'est que le PSG devrait être très diminué pour ce choc. Et pour accompagner tout ça, nous jetterons un coup d'œil à l'une des affiches du week-end, le derby du nord de Londres en Angleterre. Arsenal-Tottenham, Gunners contre Spurs. On se retrouve en fin d'émission pour le dessert maison, les cartons. Merci à David Finzel, Pierre-Olivier Guérin, Laurent Salerno qui œuvre en coulisses. Radio Foot, c'est parti.
UEFA Men's Player of the Year is Virgil van Dijk.
Ja! Virgil van Dijk maakt die 2-2!
Van Dijk did it! Virgil van Dijk on debut!
Virgil van Dijk, de aanvoerder!
And the winner is, eh bien, ni Ronaldo ni Messi. C'est le troisième nommé qui a raflé la mise hier à Monaco. La mise, ou plutôt le prix UEFA du meilleur joueur d'Europe, Virgil van Dijk, le rock de Liverpool, champion d'Europe et surtout défenseur. Un poste rarement à l'honneur quand arrive la saison des récompenses individuelles. Saïd, je pense bien évidemment au Ballon d'Or, Saïd Hamda.
Tout à fait, le Ballon d'Or n'a connu que trois défenseurs. En 1972, Franz Beckenbauer, qui l'a obtenu deux fois en 76. En 96, Matthias Sammer. Et enfin, le plus connu, 2006, Cannavaro. J'allais dire Mathieu, mais pas du tout, Fabio Cannavaro.
Habib Bey, vous étiez défenseur lorsque vous jouiez au football. Vous êtes passé pas loin du Ballon d'Or, on va pas se,
se mentir.
Je plaisante. Est-ce que vous êtes surpris et surtout agréablement surpris de voir un défenseur récompensé recevoir un trophée individuel?
Non, je suis pas surpris. Agréablement surpris, je dirais que oui, parce qu'au moins l'honneur est sauf. Parce que ne pas avoir Sadio Mané titré de ce titre-là, pour moi, c'est une hérésie. C'est presque
ne pas être
presque,
sur le podium.
C'est déjà. Alors, heureusement qu'on a un joueur de Liverpool déjà, au vu de la saison qu'ils ont réalisée, que ça soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Après, je suis content parce que dans ces trois-là, pour moi, il est le seul à le mériter. Et le trio de tête aurait dû être, en tout cas, pas forcément dans l'ordre, mais ça aurait dû être Van Dijk, Salah et Sadio Mané sur le trio final. Voilà, c'est ce que je pense.
On s'est dit, quand on a vu les nommés, que dans une période pas si lointaine, on n'aurait pas hésité à le donner ou à Messi ou à Ronaldo et à surtout pas récompenser un joueur qui joue aussi bas sur le terrain, parce qu'on l'a dit, c'est rare de récompenser les milieux et surtout les défenseurs.
Oui, mais sauf que ce prix, il récompense la saison des joueurs. Donc sur la saison passée, notamment la saison européenne, c'est évident que ça va être un joueur de Liverpool par rapport à tout ce qu'ils ont démontré. Et moi, je suis comme Habib, je trouve ça scandaleux que Sadio Mané soit pas au moins sur le podium. Pour moi, c'est lui qui aurait dû recevoir le titre. Et je pense qu'un joueur comme De Ligt aussi, avec l'Ajax, pour récompenser aussi l'Ajax, qui était pour moi le meilleur joueur de l'Ajax sur la saison, méritait aussi d'être sur le podium. Et je vois pas ce que Cristiano Ronaldo et Messi font, même si c'est deux joueurs extraordinaires, deux extraterrestres, etc., etc.
Mais là, sur cette saison-là. Messi, au vu des statistiques, tu peux te dire, les statistiques sont tellement exceptionnelles que c'est tout à fait logique qu'il soit là. Enfin, c'est tout à fait logique qu'il soit là. Qu'il soit là, pour moi, c'est pas un scandale. le fait que Sadio Mané soit pas dans ce trio, et après, pour moi, l'ordre, il est défini, et ça, ça se joue à peu de choses, mais le fait que Sadio Mané ne soit pas dans ce trio-là, pour moi, m'étonne. Mais Van Dijk, au vu de sa saison, au vu de ce qu'il a apporté à Liverpool, parce qu'il faut aussi mettre dans la dimension des prix individuels ce qu'apporte un joueur, et comment un seul joueur ou quelques joueurs font basculer une équipe, il faut pas oublier qu'avant son recrutement, Liverpool prend énormément de buts. Et une fois qu'il arrive, la défense de Liverpool et le contexte un petit peu global d'équilibre de cette équipe change. Il y a eu pour moi lui et Alisson qui ont tout changé au niveau de Liverpool. Après, Salah, Mané, Firmino sont ceux qui magnifient un petit peu ce jeu de Liverpool. Mais je crois que Van Dijk a apporté ce qu'apporte par exemple un Sergio Ramos au Real Madrid, cette constance défensive qui permet aux grandes équipes de gagner des titres.
Rémy Ngono, votre réaction par rapport à ce que vous
entendez ? C'est justement bien parce qu'il me tend la perche de parler de Sergio Ramos, qui malheureusement n'a jamais eu ce prix. Et quand on me parle de Van Dijk, je suis scandalisé. Moi, je vous dis, je suis scandalisé. Parce qu'on me parle d'une semaine, d'une saison magnifique. Je voudrais bien savoir quelle est cette saison magnifique, parce que c'est un excellent défenseur qui s'est reculé pour ne pas aller au duel. Dès qu'il a tenté d'aller au duel, on l'a vu dernièrement en Première Ligue, directement, il a été éliminé par Pepe. Donc, première des choses, on me dit que c'est lui, ce n'est pas ça, parce que vous oubliez les matchs de Liverpool. Liverpool est venu contre Paris Saint-Germain, a pris de l'eau, et où était ce Van Dijk? Il était totalement à côté de la plaque. Quand on voit Van Dijk contre le Barça au match aller, où est-ce qu'il était? Il n'a gagné aucun duel.
On a compris que selon vous, il ne méritait pas, mais alors, qui aurait dû l'emporter?
Attends, oui, et pour moi, lorsqu'on regarde le match retour où Liverpool se qualifie, non seulement c'est sur le plan offensif, mais sur le plan du duel, qui réussit à stabiliser, à maîtriser Messi. C'est bien Matip. Et on ne voit pas Matip. On nous parle de Van Dijk, exactement comme la grosse escroquerie avec Cannavaro, pour qu'on ne mette pas en lumière celui qu'on appelle, justement, comme je disais avec Habib Bey, l'homme qui a été constant, c'était Sadio Mané, co-meilleur buteur de la Premier League. L'homme qui ne s'est pas blessé, qui a eu à dire à tous ces jeunes-là, quand bien même les Salah étaient blessés avec Firmino, l'homme qui amène cette équipe-là, qui porte Liverpool, s'appelle Sadio Mané. Et je suis d'autant plus scandalisé que dans le classement final, qu'est-ce qu'on voit au niveau des votes? On se rend compte que, au niveau des votes, meilleur joueur. On se rend compte que c'est certes Van Dijk, mais dans le classement, on se rend compte que Sadio Mané n'est pas sur le podium. Mais sur les meilleurs
attaquants. C'est un débat qu'on a déjà fait il y a quelques semaines.
Mais sur les attaquants. Maintenant, il y a un autre vote. Toujours de ces prix-là. Maintenant, les votes. Meilleur attaquant, on désigne que c'est Lionel Messi. Deuxième meilleur attaquant, c'est Sadio Mané. Mais comment il n'est donc pas au podium? S'il est vous-même dans le même vote, il se retrouve deuxième meilleur attaquant européen. Et il n'est pas dans les votes. Moi, j'ai dit, s'il y a eu au niveau de la défense, et s'il fallait primer le derrière, Alisson Becker valait mieux que Van Dijk, parce que c'est lui qui réussit avec 21 clean sheets à stabiliser cette équipe avec d'énormes arrêts.
Saïd Hamda, je vous donne la parole. Alejandro, vous vouliez ajouter quelque chose? Peut-être défendre Van Dijk, le Néerlandais rhabillé pour Oliver Paré.
Pour comprendre ces classements qui peuvent paraître parfois étonnants, il ne faut pas raisonner comme si on décidait autour d'une table et qui est les meilleurs, etc. Ce sont des individus qui doivent donner trois noms dans l'ordre. Et en général, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et depuis une dizaine d'années, on va donner effectivement le nom d'un des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. En l'occurrence, on va choisir entre Mané ou Salah ou Van Dijk ou Alisson. Bon, apparemment, il y a eu plus de choix qui se sont portés sur Van Dijk. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On met Messi et Cristiano Ronaldo. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc, c'est qui explique ce podium qui peut paraître un peu étrange. Avant, il y avait 5 noms qui devaient être donnés au Ballon d'Or, et ça continue même désormais à nouveau au Ballon d'Or comme ça. Ça permet d'avoir un peu plus de richesse dans l'expression du vote.
On va mettre les pieds dans le plat. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont africains. C'est aussi simple que ça. Il faut pas aller plus loin.
Salah, Mané ne sont pas là parce qu'ils sont africains.
Oui. Mais bien sûr que oui. Si demain Salah est brésilien, il s'appelle Salah Inho, il s'appelle Mané Inho, il est devant. C'est une obligation. Aujourd'hui, rappelez-vous du vote de l'année dernière sur le Ballon d'Or. Sadio Mané est 21e et je crois que Mohamed Salah est sixième. Alors que Mohamed Salah avait mis 32 buts en Première Ligue, qu'il avait mis 10 buts en Ligue des Champions, que Sadio Mané avait été buteur en finale de Ligue des Champions face au Real qui bat ce Liverpool, et on me dit que ce joueur-là va finir derrière Harry Kane, qui n'a pas été plus loin que je ne sais quel.
Il y avait eu la Coupe du Monde.
On peut me le tourner dans tous les sens. Ça a existé dans le temps. Samuel Eto'o n'a pas été Ballon d'Or. Yaya Touré a été très très loin en Ballon d'Or. Beaucoup de joueurs africains. Didier Drogba, lorsqu'en 2012 il gagne la Ligue des Champions, il est très très loin du Ballon d'Or. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes africain, de toute façon, il faudra faire deux fois plus qu'un Anglais, deux fois plus qu'un Brésilien, plus qu'un Argentin.
Je suis d'accord, mais tu peux dire la même chose pour des joueurs européens qui n'ont pas eu le Ballon d'Or, comme Iniesta, comme Xavi, comme plein de joueurs qui ont été merveilleux, qui l'ont pas eu. Je ne sais pas dans la proportion,
dans l'éloignement des places qu'on peut considérer comme des places.
Je suis d'accord sur quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont africains qu'ils n'auront jamais
le
Ballon d'Or.
Mais par contre,
moi, je me demande ce qu'un joueur africain doit faire pour gagner un titre, parce qu'effectivement, quand tu rappelles Mohamed Salah la saison passée, il a des stats stratosphériques.
Donc tu réponds à ma question en disant qu'est-ce qu'un joueur africain doit faire. Parce qu'il ne doit pas être africain. Mais tu peux pas affirmer
parce qu'ils sont africains, c'est pour ça qu'ils n'ont pas.
Moi,
le
je te le dis,
c'est compliqué.
J'ai pas peur de le dire. Et je pense que je sais pas si on demande son avis à Rémi. Je te dis, ils ne sont pas aujourd'hui. Demandons-lui parce qu'ils sont africains.
Demandons-lui.
Posons la question au joueur africain Yaya Touré, Samuel Eto'o. Ils ont eu ces pensées-là et aujourd'hui, on est obligé de dire que quand tu es un joueur africain, le rayonnement de ta sélection africaine n'est pas le même rayonnement qu'une sélection brésilienne ou qu'une sélection en Argentine par exemple, et ben à un moment donné t'es moins considéré, et comme t'es moins considéré t'es pas dans les places d'honneur. Si Sadio Mané aujourd'hui est cinquième de ce trophée, c'est que c'est un scandale. On peut me dire ce qu'on veut avec la saison qui réalise, c'est un pur scandale.
Alors c'était pas forcément le débat du jour, mais le coup de gueule d'Habib est passé et il vous a interpellé, Rémi, donc vous pouvez lui répondre.
Oui, parce que justement je vais lui dire c'est même un théorème qui est vrai. C'est-à-dire que les joueurs africains sont mésestimés, sous-estimés et moins évalués. Et ça fait que peut-être qu'ils sont dans le noir, comme on dit, le continent noir. Moi, quand vous me dites qu'il y a des joueurs qui n'ont pas eu de ballon d'or, je vais tout simplement dire que dans la continuité, vous allez voir que Samuel Eto'o a été nominé combien de fois ? 9 fois. Mais jamais il n'a dépassé la 5e place. L'année, en 2006, où il doit remporter le ballon d'or, il est même classé 7e. Et on dit qu'on vient avec un type qui avait exactement ma taille, sinon que je le dépasse avec 2 centimètres. Un défenseur central qu'on appelait Cannavaro, un boucher, est devenu ballon d'or. Deuxième des choses, il faut savoir que Didier Drogba, dont il vient de citer, a été 8 fois d'affilée comme nominé. Et en 2009, c'est la meilleure position africaine. C'est-à-dire que Didier Drogba devient 3e avec 107 points. Mais dites-moi, lorsque vous voyez de tels effets, et que vous savez que juste le ballon d'or, on a voulu récupérer dans les places européennes, comme on le dit, c'était avec qui ? Wea, pour donner une certaine couleur dans ce bel emballage. On vient avec Wea, point. Et après ça, il n'y aura plus rien. Un Africain n'aura plus de ballon d'or.
C'est trop facile, Rémi.
On va conclure sur ce débat qui n'était pas au menu du jour.
Il faut quand même comprendre que si ces rayonnements, comme dit Habib, est moindre, c'est aussi parce que les équipes nationales africaines n'ont pas accompagné la montée en puissance de certains joueurs dans les clubs européens. Et tant que les équipes africaines ne seront pas en mesure d'aller gagner...
Rémi, la réaction d'Habib et après on enchaîne.
Je le sais, et en plus je suis contre la victimisation de ce côté un petit peu, on est des Africains et tout ça. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Sadio Mané, avant ce trophée ou cette éventuelle nomination, a quand même marqué 2 buts en Super Coupe d'Europe et a offert ces 2 buts en Super Coupe d'Europe à Liverpool. Donc si on fait un topo de sa saison, il a tout gagné. Et il a été le joueur le plus important dans toutes les compétitions. Et il a été en finale de Cannes. Ça suffit pas pour le voir sur le podium. Moi, je dis pas qu'il le gagne. C'est qu'il ne soit même pas sur le podium
moi
qui est un scandale. Oui, mais moi, je vais même pas jusque-là, Rémi.
Moi,
je comprends.
Messieurs, parce qu'on rappelle qu'il n'était pas nommé, donc ce débat, vous avez raison de vous exprimer, mais on l'avait déjà eu il y a quelques semaines. Saïd Hamda lève la main
depuis un petit moment,
exprimez-vous, Saïd.
Non, mais juste pour mettre un petit peu tout le monde d'accord sur cette question, c'est que Sadio Mané le pense aussi. Cet été, il a fait une interview à la BBC où il faisait un cri du cœur en disant que les compétitions africaines comme la CAN n'étaient pas assez valorisées. Du coup, on sous-estimait le joueur africain. Il y a un autre joueur africain aussi qui avait fait une très bonne saison et on n'en parle pas du tout. C'est Hakim Ziyech qui est complètement passé dans l'oubli. Il avait une clause libératoire à 30 millions d'euros et aucun grand club ne s'est positionné là-dessus. Donc c'est vrai que Habib et Rémi soulignent un fait important, c'est que les joueurs africains sont sous-estimés. Et juste pour revenir rapidement sur le trophée, parce que je vais quand même
exactement parce qu'on a
placer.
Beaucoup parlé du Ballon d'Or, voilà. Et du coup c'est vrai que ce prix UEFA, on a envie de le mettre en perspective avec le Ballon d'Or.
Sur ce prix UEFA, tout le monde est unanime pour dire que Sadio Mané méritait d'y être. Pour moi, ça devait être un trio à 100% de Liverpool. On aurait dû rajouter donc Alisson Becker parce que c'est un gardien. Donc forcément, on pense pas à lui, mais il est en grande partie artisan de cette victoire de Liverpool. Donc Alisson Becker, Van Dijk et Mané, et n'importe lequel des trois qui l'emporte aurait été mérité quoi qu'il arrive.
Allez, on enchaîne, on l'a rappelé, on l'a même déploré largement ici. Messi et Ronaldo étaient nommés aux côtés de Virgil van Dijk hier, les deux monstres qui étaient assis l'un à côté de l'autre lors de la cérémonie à Monaco. Ils ont donné l'impression d'être plutôt contents de se revoir, ils étaient assez complices dans leurs beaux costumes. Cristiano s'est même laissé envahir par un début de nostalgie, comme quoi il est humain aussi, Cristiano Ronaldo. On va écouter cet extrait, l'un des moments sympas de la cérémonie. Deux remises du trophée du joueur UEFA, mais également du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions.
Cela fait 15 ans que l'on partage la même scène. On a presque le même âge, le même niveau. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du football que cela dure aussi longtemps. Mais vous savez, bien sûr, on s'entend très bien. Bon, c'est vrai, nous n'avons encore jamais dîné ensemble. Mais j'espère que cela pourra se faire dans le futur. Bien sûr, parfois l'Espagne me manque. Lionel et moi, on s'est tant affrontés ces 15 dernières années. Ces joutes avaient du bon, ça nous stimulait l'un et l'autre. C'est une vraie fierté de savoir que tous deux nous faisons à présent partie de l'histoire du football.
Ah oui, la bromance, Cristiano Ronaldo, Léo Messi, non, c'est un bel hommage, une belle déclaration de Cristiano Ronaldo.
On l'a toujours dit, Cristiano Ronaldo ne serait pas Cristiano Ronaldo sans Messi, et Messi ne serait pas Messi sans Cristiano Ronaldo. Je pense qu'on vit une époque du football où le jour où ils vont s'arrêter, si on est d'assez amoureux du foot comme on l'est aujourd'hui, on versera peut-être pas notre petite larme, mais ils vont nous manquer. Alors, clairement, ils vont nous manquer.
Justement, Habib, ils vieillissent, hein, comme tout le monde, et en termes de... En ce qui concerne les trophées individuels, ils sont en train de laisser la place aux autres. Modric l'an passé, peut-être Van Dijk hier soir. Du coup, est-ce qu'on assiste à la fin d'une époque? C'est volontairement exagéré comme question, mais est-ce que voilà, il faut commencer à s'y préparer.
Ouais, mais on a dit ça il y a 2 ans où on pensait que ça allait s'arrêter. Et ils repoussent toujours leurs limites. Lionel Messi, la saison de Lionel Messi en statistiques, pas en résultats, mais en statistiques, elle est encore exceptionnelle. La saison de Cristiano Ronaldo qui arrive dans un nouveau club, au vu de ce qu'il a fait aussi en Ligue des Champions, elle est pour moi exceptionnelle. Alors après, on peut pas considérer que ces joueurs-là vont gagner la Ligue des Champions tous les ans, vont gagner le championnat d'Europe tous les ans, vont gagner la Copa América tous les 2 ans, vont gagner la Coupe du Monde. Donc il y a forcément des ratés, et heureusement pour eux, parce que sinon ils auraient tout. Et je pense qu'ils ont déjà pas mal. Après, ce qu'on aimerait voir, c'est un des deux qui se détache en quelque sorte, hein, qui passe à 6, Ballon d'Or. Moi, je pense qu'ils sont pas finis. Je pense qu'on va revoir ces deux joueurs-là encore à un niveau exceptionnel, parce qu'ils sont nés pour ça, ils sont programmés pour ça, et c'est normal qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on doit comparer le niveau intrinsèque des joueurs, pour moi, ils sont encore dans une autre galaxie. C'est-à-dire que on peut dire aujourd'hui que Sadio Mané a fait une saison extraordinaire, mais comparer le talent intrinsèque de Sadio et celui de Lionel Messi, il y en a un qui est dans une autre dimension, et c'est pas du tout le même football. Mais en même temps, c'est pas très grave. Sadio est un joueur extraordinaire, mais Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont des joueurs de la trempe de Maradona, des joueurs que vous voyez peut-être tous les 30 ans, quoi.
Et
voilà,
du
c'est
coup,
ça.
Bruno Constant, même si on l'a déploré, ils étaient encore nommés hier sans forcément le mériter.
C'est inexplicable et injustifiable, mais bon, ça c'est comme ça, malheureusement, avec les prix. Après, je suis d'accord avec Habib, et après, malheureusement, plus les années passent, plus on se rapproche du crépuscule et de la fin de cette rivalité. Et d'ailleurs, moi, j'ai le souvenir de ce que faisait Alex Ferguson, la guerre des mots entre Alex Ferguson et Arsène Wenger. Le jour où Ferguson et Wenger sont devenus amis, où ils sympathisaient, etc., c'était au moment où Wenger ne représentant plus un danger pour Ferguson. Et on a l'impression que là, cette amitié soudaine ou qui va peut-être se créer, ou je sais pas, entre les deux, il y a du respect. Et c'est parce que peut-être on arrive aussi à la fin d'une histoire. Et eux, peut-être s'en rendent compte tous les deux, peut-être plus Cristiano Ronaldo que Messi, parce que je pense que Messi a encore au moins une bonne année, deux années à nous offrir au très haut niveau.
Du coup, Raymond Gono, vous allez faire la paix avec Lionel Messi?
Je suis d'abord surpris qu'ils disent qu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont au crépuscule ou alors totalement dans la
ils approchent.
Et non, ils n'approchent pas. Je vais vous dire qu'ils ont pas toujours été, et particulièrement Cristiano Ronaldo, à qui on attribue souvent des épithètes qui sont toujours de moquerie, comme garçon, orgueilleux,
arrogant, et tout.
Et il le prouve chaque jour, et chaque fois qu'il a rencontré Messi, il a toujours...
Ce qui est totalement faux dans la vie privée, dans la vie en dehors des caméras, Ronaldo est très 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 bonne image auprès des joueurs.
Voilà, tous les joueurs le disent, ouais. Et il a toujours eu à s'approcher de Lionel Messi, qui est un peu plus timide. Et maintenant, quand on me dit que un joueur qui a une telle hygiène de vie, quand on voit la pré-saison et on voit sa vitesse de pointe aux entraînements, on dit, mais non, comme il le dit, il se sent dans ses 23 ans. Je vais quand même vous rappeler que nous avons assisté à un ballon d'or où Stanley Matteo l'a remporté à 42 ans.
Donc, je peux quand même vous dire que
Roger Milla a séduit le monde entier à la Coupe du Monde. Sauf que ceci, c'est des grands adeptes, et particulièrement Cristiano Ronaldo, qui tient à son hygiène de vie. Donc moi, je me dis, nous n'avons pas encore pour un an, ou deux ans, ou trois ans, mais Cristiano Ronaldo l'a dit, lui compte minimum vers la quarantaine.
Ah d'accord. Donc
et les vieilles marmites continuent toujours à faire de bonnes sauces.
Ah enfin, merci, il faut attendre pour l'avoir ce proverbe africain. Donc du coup, on en a encore pour quelques années, mais si Ronaldo, oui. On sait où va votre préférence à l'Alejandro.
Je pense que déjà lundi, on aura encore un exemple de cette persistance avec les podiums du prix FIFA de Best qui seront révélés lundi.
J'espère que Sadio Manoué, vous allez encore nous énerver
nos consultants. J'ai peur qu'on soit très proche de celui qu'on vient de voir.
Ouais. Ce serait forcément dommage, Saïd.
Là où je les trouve forts, c'est que Ronaldo et Messi vont pas disparaître de la circulation du jour au lendemain. C'est que ça va se faire tranquillement. Ça veut dire que le jour où ils seront plus premiers, ils seront second, puis troisième, puis ensuite ils vont plus être sur le podium, puis ils vont revenir deuxième, troisième, ça va être une transition en douceur.
C'est déjà le cas, mais pour l'instant, ils arrivent
quand même à glaner la première place. Un jour, ça ne sera plus le cas, mais ils seront toujours pas loin. Toujours un petit danger omniprésent jusqu'au dernier jour.
Ils sont dépendants. Faut pas oublier que Modric a fait une immense saison. Il est ballon d'or, mais je pense que si Cristiano Ronaldo n'a pas son problème extra-sportif supposé de viol, il aurait été ballon d'or. C'est clair. Il a été écarté pour cette raison-là.
Donc ils sont encore dans le coup.
Non, ce que je veux dire, c'est que on a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont sur la phase descendante depuis deux ans. Non, ils n'ont pas du tout sur la phase descendante. Modric a gagné ce ballon d'or parce qu'il le méritait au vu de sa saison, mais parce que Cristiano Ronaldo a eu des problèmes. Et là, encore une fois, avec la saison de Messi, n'oubliez pas une chose, c'est que pour ce ballon d'or, il reste septembre, octobre, novembre, décembre, avec des matchs de Ligue des Champions. Si ces deux joueurs-là cassent tout avec le Barça ou cassent tout avec la Juve, tout peut être mis en question sur 4 mois, parce que rappelez-vous qu'on ne se rappelle pas ce que les gens ont fait au mois de janvier. Par contre, on se rappelle très bien de ce qui se passe juste avant le fait qu'on vous donne le prix. C'est-à-dire que septembre, octobre, novembre, décembre, ça peut très vite arriver.
D'autant plus qu'il n'y a aucun joueur qui s'est détaché vraiment sur la première partie de l'année. Là. Il n'y a pas de joueurs. Il y a Mané, il y en a quelques-uns à Liverpool, mais c'est
et
pas non plus...
Et puis qu'on a des jurys africains, asiatiques, ouais. Sud-américains qui votent peut-être un peu différemment que ceux d'Europe.
Les dames, on peut en parler... Ouvrez une petite parenthèse, la Britannique Lucy Bronze, qui a devancé deux autres Lyonnaises, Amandine Henry, Ada Egerberg, vous qui suivez le football anglais, c'est une satisfaction, c'est une Anglaise qui a
ça récompense l'Olympique Lyonnais, qui est le meilleur club d'Europe, au monde, enfin, voilà, qui domine le football féminin depuis tellement d'années. Et Lucy Bronze, c'est effectivement une excellente joueuse, ce côté gauche anglais, ce côté droit anglais, pardon, et lyonnais. Donc c'est moi, l'équipe d'Angleterre, c'était ce côté-là qui me fascinait un petit peu. Mais voilà, c'est bon.
Mais ça sanctionne Amandine Henry sur sa Coupe du Monde.
La capitaine des Bleus.
C'est-à-dire que concrètement, forcément, l'équipe de France aurait été au bout de cette Coupe du Monde. Elle aurait été, je pense, en première position. Là, le fait que l'Angleterre joue une demi-finale de Coupe du Monde, si je me trompe pas, c'est ça.
Ouais.
Bah forcément, ça lui donne petite avance par rapport à Amandine Henry. Voilà.
Alors, je le disais, les prix de l'UEFA, les prix, les récompenses individuelles ont été décernées en marge, du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Vous le savez depuis hier, les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid auront lieu dès le premier tour et même dès la première journée, le 18 septembre. Un choc qui aura son importance dans la course à la première place et que Paris devrait aborder très diminué sans Neymar. Quoi qu'il arrive, il sera suspendu le Brésilien et probablement sans Kylian Mbappé. Et blessé au sein du trio d'attaque, seul Cavani a, selon nos confrères de l'équipe, une petite chance d'être là, bien qu'actuellement blessé lui aussi. Est-ce que c'est pas un peu triste, Rémi, de voir une telle affiche avec un club qui vous est cher, le Real Madrid, plombé par ses absences?
Bon, il faut savoir que lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, même Cristiano Ronaldo était blessé, c'est-à-dire que après 1-0 ici à Paris, il y a eu au match retour une scène insolite qui s'est d'ailleurs passée, c'est-à-dire que le reporter de la chaîne chinoise qui était au stade, il s'est mis à ronfler tellement le match était insipide qu'il s'est mis à ronfler à l'antenne. On a d'ailleurs été obligé de l'enlever.
Le match, le 8e de finale en 2018.
Oui, donc là, quand on me parle de cette affiche aujourd'hui, c'est des équipes qui sont en train de se rechercher parce que actuellement avec le problème des blessures au niveau du Real Madrid, c'est très 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 impressionnant et ça gâche toute la pré-saison et la mise en scène tactique de Zinedine Zidane qui se retrouve avec des joueurs qu'il ne voulait pas. Et du côté de Paris aussi, il faut se dire que c'est la même chose parce que quand même, il faut se dire que pour ce match-là, sans l'ombre d'un doute, il n'y aura pas Kylian Mbappé, il n'y aura pas Neymar. Bon, donc on aura un Goumier comme Draxler qui court comme moi. On aura certainement Di Maria qui, bon, lui il est rapide, sauf que le ballon est toujours derrière. Lui, il s'avance plus que le ballon. Et on aura Choupo-Moting, la nouvelle star de la Ligue 1. Donc, bien évidemment, ça peut donner quoi lorsqu'on sait quand même que sur le plan des statistiques, sur les derniers matchs de Real contre les clubs français, c'est 8 victoires et 2 nuls. Et sur les 4 derniers matchs avec Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires et 1 nul. Donc, c'est un théorème, comme le dit un proverbe africain, quand la cruche tombe sur la pierre, c'est la cruche qui se casse. Quand la pierre tombe sur la cruche, c'est toujours la cruche qui se casse. Donc, dans tous les cas, c'est toujours, c'est L'Oréal qui est toujours devant.
Les enjeux ne sont pas là pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, il faut considérer aujourd'hui que l'important, c'est d'aller en huitième de finale. Vous êtes dans une période de préparation. Ne pas oublier qu'au mois de septembre, les équipes ne sont pas prêtes. Et que si vous regardez sur les trois dernières années de la Ligue des Champions, le Real finit 2 fois 2e, gagne la Ligue des Champions. L'année dernière, Liverpool ne finit pas premier de son groupe et gagne la Ligue des Champions. Ce qu'il faut dire, c'est que quand vous arrivez en huitième de finale, de toute façon, vous touchez un cadeau. Que vous le touchiez en huitième ou en quart, pour ces équipes-là, que vous sortiez en huitième ou en quart, de toute façon, c'est échec. Donc, en quelque sorte, que le PSG finisse deuxième de ce groupe parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'il leur manque du monde, en quelque sorte, moi, si demain je suis président du PSG ou entraîneur du PSG, mon objectif ultime, c'est pas de finir premier. Mon objectif ultime, c'est d'aller en huitième de finale. Si je finis premier, tant mieux, ça veut dire que mon équipe est prête, mon équipe a été performante. Mais si je finis deuxième, de toute façon, je sais qu'en huitième de finale, ok, je pourrais être épargné. Mais lorsque vous êtes le PSG, que vous preniez, par exemple, un exemple, Cercle de Bruges en huitième. Et puis en quart, bah forcément, vous arrivez sur soit Barcelone, soit Liverpool, soit City. Et que vous sortez. Que vous soyez sorti en huitième ou en quart, le résultat, il est le même. On vous dit échec. Donc pour le PSG...
Ils sont remontés la saison dernière, ils sont premiers du groupe, ils tombent contre Manchester United.
Voilà, ils se font éliminer. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour le PSG, c'est déjà de retrouver ses cadres. C'est déjà de peut-être retrouver Neymar s'il ne part pas. C'est déjà de retrouver Mbappé à un moment donné où on se dira bah peut-être que le fait qu'il ait été blessé ces 1 mois lui ont permis de souffler un peu, de se régénérer et puis de retrouver un joueur un petit peu plus frais. Donc il n'y a pas de vérité aujourd'hui. La seule vérité pour le PSG, c'est pas forcément de finir premier, c'est de sortir de ce groupe et ensuite de préparer le contexte des huitièmes de finale avec le plus de certitude possible.
Les autres adversaires du PSG, justement, dans ce groupe. Club Brugge, le Cercle de Bruges, je crois, ne participe pas à cette Ligue des Champions. Ouais, et Galatasaray. Donc, si je suis le raisonnement d'Habib, c'est limite même contre ces équipes supposées plus faibles qu'il faut faire carton plein plutôt que cartonner contre le, le Real Madrid dans un choc qu'on aborde diminué.
Évidemment, mais ça, c'est le cas pour tous les gros qui ont deux équipes faibles dans le groupe. Ça se joue évidemment là. La première place va jouer avec le Real, évidemment. Après, moi, faut quand même pas non plus prendre à la légère ces premières journées qui peuvent, dans la situation du PSG, je parle même de la situation interne de Tourelle, de son vestiaire, etc. Si vous commencez la campagne européenne avec une défaite, par exemple, à domicile face au Real, que vous allez jouer à Galatasaray et vous te faites accrocher, vous pouvez vite tomber dans une situation un peu tendue, avec déjà une première défaite en championnat. Et il faut faire attention aux conséquences ou aux répercussions d'une mauvaise entame, la mauvaise ambiance que ça pourrait amener dans un vestiaire ou autour du club. Il y a déjà l'affaire Neymar, on sait qu'il y a des tensions, ou du moins que Tourelle a peut-être en train de perdre le vestiaire parisien.
Oui, mais regarde, l'année dernière, dans leur groupe, l'arbitre, c'est l'étoile rouge de Belgrade. L'arbitre du choc, en fait, en quelque sorte, c'est l'étoile rouge de Belgrade. L'étoile rouge de Belgrade qui va taper Liverpool. Tout le monde disait, on pensait que ça allait être le...
Et en fait, non, mais parce que t'avais trois équipes fortes.
Ouais, mais tu peux pas considérer aujourd'hui que Galatasaray, ok, en termes de contenu, par contre, quand tu vas jouer là-bas en Turquie, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est en dessous en termes de qualité. Mais tu sais que le contexte, excuse-moi, l'étoile rouge de Belgrade.
Quel est le dernier exploit de Galatasaray, Habib?
Mais dans ces cas-là,
quand ils avaient quelques stars comme Diedrogba.
Je suis d'accord, Bruno, mais tu me renvoies au match de l'étoile rouge contre Liverpool l'année dernière.
Une fois en 10 ans.
Mais donc, laissez-vous parler.
L'étoile rouge l'année dernière. Quand Liverpool va à l'étoile rouge, tout le monde dit c'est tranquille, formalité. Oui. Ils en prennent deux. Et ben, c'est le même contexte que demain si le PSG va jouer à la Galatasaray est du même niveau que l'étoile rouge de Belgrade. C'est que quand tu vas là-bas en Turquie, avec cette ferveur, cette ambiance, tu peux être accroché.
Je suis entièrement d'accord, Habib. Le seul truc, c'est la différence, la grosse différence, c'est que l'année dernière, tu avais trois équipes fortes qui étaient à peu près sur la même ligne. Naples, Liverpool, PSG. Cette année, t'as deux grosses équipes qui sont vraiment au-dessus des deux autres. Et à moi, même si tu perds à Galatasaray, je pense pas que tu seras en difficulté parce que malgré tout, les deux sont vraiment.
Et finalement.
Il n'y a pas le troisième. Il y a pas le troisième pour menacer le Real ou le PSG sur la deuxième.
Et si on laissait Alejandro s'exprimer, il n'a pas encore eu la parole sur ce sujet. Bah
écoutez, je pense que le PSG peut prendre exemple Manchester United de la saison dernière, avec beaucoup d'absents, ils sont venus au Parc des Princes et ils ont gagné avec une équipe. Et je pense que des Choupo-Moting et autres Di Maria, etc., ont l'occasion quand même de se mettre en valeur, de se montrer et de jouer peut-être avec une envie qui parfois n'est pas toujours là quand les stars sont présentes. Donc ça peut donner des idées à Tourelle également de faire bouger certaines choses. Donc tout ça me paraît quand même prometteur et intéressant.
Allez Rémi, je vous ai coupé la chic. Désolé.
Oui, j'ai dit c'est bien parce que on me parle de cette équipe du PSG comme ça, mais quand on voit ce PSG jouer déjà aussi en championnat, c'est avec les mêmes joueurs aussi qui disent que ils sont en train de remplacer des cadres, mais ils ne sont pas aussi fameux que ça. Donc pour moi, lorsque vous me dites, et d'ailleurs Habib a su le souligner, ce n'est pas seulement une affaire de PSG qui, quand tu vois sur le papier, tu dis Galatasaray, mais Galatasaray c'est chaud bouillant. Donc même Bruges n'est pas, bon, j'ai dit, PSG n'est pas aussi fort comme on peut l'imaginer actuellement. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention, même... Je peux vous prendre un exemple. L'année dernière, là où le Real savait qu'il va faire le plein des points, c'était avec CSKA Moscou. Mais le Real, bien qu'ayant tiré 26 fois, est rentré de là, la queue entre les jambes.
Mais le Real était en crise à l'époque. C'était en pleine crise, changement d'entraîneur, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de
critiques. Bon, le PSG n'est pas en crise.
On aura le temps de reparler de Galatasaray et des difficultés des déplacements en Turquie. Bruno Constant, on avait eu une finale 100% anglaise en Ligue des Champions et même en Ligue Europa. Est-ce que ça va être bis repetita cette année, maintenant qu'en plus on a le tirage au sort sous les yeux?
C'est pas impossible, hein, parce que les places fortes encore, Liverpool en fait parti. Manchester City, à un moment donné, il y a une énorme pression sur Guardiola, sa quatrième saison. Pour l'instant, c'est un échec au niveau européen.
Et un tirage assez facile.
Et des tirages assez facile ou faisable, en tout cas pour les quatre clubs anglais. Après, moi, j'écarte pas le Barça, j'écarte pas le Real, j'écarte pas non plus le PSG. Il y a le Bayern ou Dortmund, il y a quand même des gros, ou la Juve, il y a quand même les gros sont toujours là. Sur les 12 derniers finalistes, il y a 6 équipes différentes seulement. C'est peu et c'est souvent les mêmes équipes qu'on retrouve, donc c'est à peu près toujours les mêmes. Et Jürgen Klopp lui-même a dit qu'il pense pas qu'il y aurait une domination ou une hégémonie anglaise sur la Ligue des Champions comme on avait pu voir au début des années 2000, où pendant 8 ans les Anglais étaient à chaque fois 3 fois sur 4 en demi-finale.
Saïd Hamda, on a également assisté au tirage au sort de la phase groupe de la Ligue Europa ce vendredi.
Tout à fait, on va se concentrer sur les clubs français. On va commencer par Rennes qui était dans le chapeau 3. Et Rennes a des arguments à faire valoir, alors ils ont tiré la Lazio, le Celtic et Cluj. C'est la deuxième saison consécutive où on va retrouver les Bretons en Coupe d'Europe. L'an dernier, ils étaient passés pas loin en sortant face aux finalistes Arsenal. Rennes retrouve donc le Celtic qu'ils avaient déjà croisé en phase de poule en Ligue Europa 2011-2012. Dans le groupe I, Saint-Etienne a tiré Wolfsburg, la Gantoise et Oleksandria, un club ukrainien. Seul Wolfsburg, qui était sixième l'an passé en Bundesliga, semble être le danger principal dans cette poule.
Coup d'envoi de la Ligue des Champions, début de la vraie saison européenne le 17 septembre, deux jours plus tard pour la Ligue Europa. En attendant, dans ce café des sports, place aux affaires courantes ce week-end. À l'heure du thé dimanche, mon cher Bruno Constant, il faudra suivre le North London Derby. Ça va, je le prononce bien. Le derby du nord de Londres, quatrième journée de Premier League. Arsenal-Tottenham, il y en a eu évidemment beaucoup, beaucoup, des derbys du nord de Londres dans le passé, Saïd Hamda. En ce moment, c'est qui mène, Arsenal ou plutôt Tottenham?
C'est assez équilibré, en tout cas sur le papier rien ne se dégage. Quelques chiffres pour y voir un petit peu plus clair. On est remonté jusqu'à 2008, les deux équipes se sont retrouvées 22 fois en Premier League sur ce laps de temps. Résultat, 22 matchs, 7 victoires pour Arsenal, 8 nuls et 7 victoires pour Tottenham. J'ai essayé d'être un peu plus concret en dégageant sur les 5 derniers matchs une tendance. Tottenham a gagné 2 fois, Arsenal a gagné 2 fois et un match nul qui ne départage du coup personne.
Ouais, donc c'est plutôt équilibré de manière plus globale. Les hiérarchies se sont un peu inversées dans le nord de Londres. Les performances des Spurs ces dernières saisons sont bien plus convaincantes que celles des Gunners. Tottenham est vice-champion d'Europe. Arsenal n'est que finaliste en titre de la Ligue Europa. Est-ce que le début de saison a fait bouger les lignes selon vous? Et est-ce que Arsenal redevient le favori pour ce week-end?
Non, pas forcément. Les deux équipes restent sur une défaite. Arsenal à Liverpool. Et Tottenham, défaite surprise à domicile face à Newcastle. Donc il y a un peu de pression sur les Spurs. Il y a un peu de tension autour de Mauricio Pochettino qui depuis quelques semaines, quelques mois, se plaint un petit peu de son rôle de réduit à celui d'un coach et pas d'un manager en charge du recrutement. Et il y a notamment le cas Eriksen assez épineux chez les Spurs, il lui reste un an de contrat, le club essaierait de le vendre, en tout cas le joueur ne veut pas prolonger et Pochettino n'est même pas sûr de pouvoir compter sur lui. Et Arsenal, effectivement ils sont en retrait depuis maintenant 3 ans, mais ce qu'ils ont réalisé sur cet été sur le marché des transferts a séduit beaucoup de monde en Angleterre et a commencé par leurs propres supporters. Ils ont été enfin agressifs, un peu dépensiers sur le marché, et notamment avec l'arrivée de Pepe ou de David Luiz. Je pense que c'est des éléments qui vont forcément renforcer cette équipe d'Arsenal. Et puis surtout, ils ont depuis 2 ans constitué un trio offensif avec Lacazette, Aubameyang et Pepe qui peut faire peur à beaucoup de monde. Et même s'ils se sont inclinés à Liverpool, moi je trouve qu'ils ont montré quelque chose du danger potentiel que pourrait être cette équipe sur la saison à venir, et ils peuvent très bien finir devant Tottenham.
Abibay, votre favori.
J'entends ce que tu me dis sur le recrutement. Ils ont fait un recrutement agressif sur des joueurs secondaires à part Nicolas Pepe, mais je dis bien sur des joueurs secondaires puisque David Luiz pour moi aujourd'hui n'est plus le défenseur top niveau qui peut te garantir d'améliorer tes défenseurs. Ouais, mais t'as pris 51 buts l'année dernière. T'as pris énormément de buts, ce qui fait que tu peux pas penser que David Luiz, à lui tout seul, va régler le problème défensif d'Arsenal. Le problème d'Arsenal, il est pas sur le plan offensif, il est vraiment sur le plan défensif. C'est-à-dire que quand tu les vois contre Liverpool, déjà d'une, tu te demandes ce qu'Emery a pensé en mettant ce losange en place. Ouais, tu te dis qu'il le change pas jusqu'à la 72e minute. Lacazette sur le banc pour aller à Liverpool. Tu pars du principe que tu vas bloquer l'intérieur du jeu, mais pas les côtés. Ça veut dire que t'as jamais vu jouer Liverpool. Mmh. C'est qu'à un moment donné, tu te questionnes, en fait, sur le fait que Arsenal puisse aujourd'hui batailler avec ces clubs que sont City, que sont Liverpool, parce que tu te rends compte que l'écart, il est abyssal. C'est-à-dire que quand tu prends le niveau de City, le niveau de Liverpool, Arsenal est à des années-lumière de City.
Par rapport à Tottenham,
l'année dernière, c'est pareil. Je pense pas, en fait, que clairement, ils se sont renforcés offensivement. avec l'arrivée de Pepe, parce qu'on l'a vu face à Liverpool, c'est un joueur d'une grande, grande qualité, et lorsque physiquement il va être bien, il va énormément apporter Arsenal. Après, le vrai problème d'Arsenal, là encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'ils reçoivent, c'est que quand ils jouent à domicile, on voit une belle équipe, à l'extérieur, c'est compliqué, mais comme Tottenham perd énormément, l'année dernière, c'est 13 défaites, Tottenham, c'est vrai qu'ils sont notamment finalistes de la Ligue des Champions, mais c'est 13 défaites, donc je pense que, oui, il peut y avoir un nivellement des valeurs entre ces deux équipes, et le duel peut exister entre eux et Tottenham.
Alejandro, vous vouliez réagir.
Oui, non, je disais qu'Arsenal, évidemment, ne lutte pas pour gagner les championnats d'Angleterre. C'est pas possible aujourd'hui. Mais par contre, Arsenal peut espérer finir dans les top 4. En tout cas,
c'est l'objectif,
voilà, c'est ça, me semble-t-il. Mais je crois qu'aujourd'hui, Tottenham est quand même une équipe plus équilibrée quand même qu'Arsenal.
Mais quand tu investis 150 millions d'euros, les gens te demandent à jouer le titre. Quand tu investis autant d'argent, tu verras qu'à un moment donné.
Non, mais les supporters, ils sont raisonnables malgré tout. Ils savent très bien qu'ils sont à des années-lumière de Liverpool et Manchester City. Et c'est pas le but du truc, c'est que Arsenal essaye seulement de remettre un pied dans le top 4. Et à terme, effectivement, l'objectif, c'est d'essayer de se remêler à la course au titre. Ils en sont évidemment très loin. Là, pour l'instant, c'est par rapport à Tottenham. C'est plus là l'ambition de quartier, entre guillemets, essayer de rattraper Tottenham qui les avait un peu distancés et se remettre déjà à leur hauteur.
Et éventuellement Chelsea aussi.
Je suis surpris de ce jugement par rapport sur Arsenal. Je vois le jugement de mon ami Habib, il est défaitiste. Nous sommes en début de championnat. Et Arsenal est l'équipe qui tout de suite entre dans des chocs. Et tu vas rencontrer qui ? Liverpool, champion d'Europe. Et Liverpool se retrouve où ? À domicile. Donc, même Barça, que tu vantes tous les jours, a pris 4-0 contre Liverpool. Arsenal prend 3-1, tu trouves qu'Arsenal, c'est à des années-lumière. Alors Barça est à des siècles-lumière, s'il faut parler ainsi. Donc moi je dis, à l'instant, lorsque je vois le recrutement d'Arsenal et lorsque je vois les propositions et déjà les ententes qu'il peut avoir entre, par exemple, le duo offensif, Aubameyang et Lacazette, et quand je vois également que Nicolas Pepe est arrivé là, ils ont pris certes 3 buts, mais il faut voir que derrière aussi, ils se sont aussi créés des occasions. Donc pour moi, Arsenal, mieux qu'à l'époque d'Arsène Wenger, est beaucoup plus armé et Arsenal peut bien espérer même être dans le trio de tête. C'est contre Liverpool. Liverpool, que ce soit contre City, contre n'importe qui, quand vous jouez actuellement Liverpool, vous avez la chair de poule.
Mais moi, le problème, j'entends, sauf que Rémi, si tu regardes le championnat l'année dernière, Arsenal finit à 29 points du titre. 29 points. Oui. Et tu penses qu'aujourd'hui, Nicolas Pepe, David Luiz et Ceballos vont à eux trois combler ce gap qui est abyssal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'un écart de quelques points. Tu es en train de me dire que aujourd'hui, il n'y a pas des années-lumière entre Arsenal et Liverpool. Il y a des années-lumière entre Arsenal et Liverpool actuellement. Il y a des années-lumière entre Arsenal et Manchester City. Et tu les vois, dans tous les scores. Quand Arsenal a joué contre City, quand Arsenal a joué contre Liverpool, il n'y a pas match. Tu me dis qu'ils ont eu des opportunités, mais il n'y a pas match.
2 secondes, je réponds. Répondez. Juste pour te dire, si tu me prends les quarts de points, 2018, eh bien, Liverpool finit à 23 points de Manchester City. 2019, Liverpool est au même nombre, à 1 point de Manchester City.
Donc on peut progresser, c'est ça, rapidement.
Gagne même la Ligue des Champions. Donc si tu te bases sur l'année
avec
passée,
le recrutement de quel joueur?
Même Real également.
Ouais, mais là
Real
tu me parles du recrutement.
Non, bon, il ne faut pas regarder ça.
Mais Ceballos c'était un remplaçant au Real Madrid. David Luiz c'était un remplaçant à Chelsea.
On a compris.
La seule recrue aujourd'hui.
On a compris vos points de vue.
Qui est une recrue phare en quelque sorte. C'est Nicolas Pepe à 80 millions. Mais tu peux pas me dire qu'aujourd'hui, David Luiz et Ceballos sont des recrues qui vont faire passer Arsenal dans une autre dimension. Moi, je les ai vus, je les ai commentés face à Liverpool. Je te dis qu'ils sont à des années-lumière de Liverpool. À des années-lumière. Maintenant, peut-être qu'ils finiront à 3 points de Liverpool. Et je dirais bravo. Mais sur ce match-là, ils étaient à des années-lumière de Liverpool.
Allez, on récapitule. Arsenal-Tottenham, c'est donc dimanche à 15h30, temps universel. Ça vaudra le coup d'y jeter un coup d'œil. Bruno Constant, c'est à vous.
Quel est le contraire?
Je vous signale également demain une grosse affiche en Italie, Juventus-Naples, un choc dès la deuxième journée. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler. On y reviendra bien évidemment en début de semaine prochaine. En attendant, place au carton pour bien achever la semaine.
Carton jaune,
un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Le carton, il est soit vert, soit jaune, soit rouge. Il peut prendre également une autre couleur en cas de circonstances particulières. On y vient dans quelques instants. Habib, on commence par vous.
C'est un carton rouge parce que moi, j'étais pas là quand vous en avez discuté. C'est un carton rouge contre ce prix UEFA pour une raison, de dire que l'Afrique existe, que les trois meilleurs buteurs du championnat anglais ont été trois Africains, que l'Afrique fournit aujourd'hui à l'Europe des joueurs d'exception, et quand j'ai dit des joueurs d'exception, on peut les citer dans le temps, Georges Weah, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré, aujourd'hui Salah, Mané, et qu'il est pour moi scandaleux de ne pas voir ces joueurs-là dans les titres majeurs. Et je peux déjà vous annoncer, on est au mois de septembre, rappelez-vous de cette phrase, on en parlera au mois de janvier, lorsque le Ballon d'Or sera décerné, on regardera le classement de Mohamed Salah, on regardera le classement de Sadio Mané, et on regardera le classement des Brésiliens, des Argentins, des Anglais, des Français, et ce jour-là, vous pourrez considérer que ce continent africain est complètement mésestimé, comme l'a dit mon ami Rémi, et qu'aujourd'hui, je suis désolé, c'est de la victimisation, mais on part avec 5 étages de retard par rapport à tous ces joueurs-là. Et malheureusement, il faut que nous, on puisse le dénoncer. Et je le dénonce pas parce que je suis africain. Je le dénonce parce que le football a besoin du continent africain pour fournir des joueurs d'exception. Et je trouve que ne pas les voir dans ces trophées majeurs, surtout le remporter à l'image de Sadio Mané, pour moi, c'est scandaleux.
Carton rouge de colère pour Habib Bey. Un coup de gueule qui fera date dans l'histoire de Radio Foot. Rémi.
Désiré Black Chocolat. De ma page Facebook. Donne un carton rouge au président du Barça, bien évidemment, qui, il y a seulement quelques temps, il disait que lui, Dembélé, Ousmane Dembélé, est meilleur que Neymar. Quelques temps après, le même président se lève pour dire, je vous donne Dembélé, je vous donne tous mes joueurs, je vous donne même mon épouse, mes enfants et tout pour que vous me redonniez Neymar. Mais finalement, qu'est-ce qu'il veut? Et maintenant, comment est-ce que il va récupérer ce Neymar qui a fui sa maison et tout et tout? Donc aujourd'hui, j'ai dit qu'il se contente de Dembélé et non qu'il court après Neymar. Comme le dit un proverbe africain, mieux vaut un oiseau libre qu'un roi captif.
Alors, je vais donner la parole à Alejandro Valente. Pourquoi? Parce que on voit à l'écran s'afficher une photo de Marcelo Gallardo. Pourquoi, Alejandro?
Carton vert, parce que, bon, près d'un an après cette fameuse finale, River Boca, Coupe Libertadores, Santiago Bernabéu, remporté par River, eh bien, River et Boca vont se retrouver à nouveau en demi-finale de cette Coupe Libertadores. Et ils se sont qualifiés tous les deux. Et ça va être encore un match des folies, évidemment. Et ça montre quand même que Gallardo fait un excellent travail. Et d'ailleurs, il est comparé aujourd'hui à quelqu'un que nous connaissons bien ici, Carlos Bianchi. Et voyez ce qu'il a répondu hier soir.
Chacun a son histoire. Bianchi a eu la sienne, moi j'ai la mienne. Je n'aime pas comparer. Bianchi a été un héros à son époque, avec énormément de trophées, et il mérite le respect. Moi je n'ai que 43 ans et je pense avoir encore un long chemin devant moi.
Voilà, et déjà, River Boca, c'est dimanche en championnat.
Bruno Constant.
C'est un carton rouge aux propriétaires qui se sont succédés à la tête du club anglais de Bury, un club de Détroit anglaise qui a été exclu de toutes les compétitions, qui a été tué tout simplement, criblé de dettes à cause de ses propriétaires. Et encore une fois, dans le football, quand des managers ou des dirigeants ou des présidents ou des propriétaires font des erreurs ou font de la mauvaise gestion, ceux qui payent, ce sont pas eux. Ce sont les supporters, ce sont les dirigeants des clubs, les bénévoles, tous ceux qui travaillent dans toutes les strates de ces clubs de football. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu une phrase d'un supporter de Bury qui disait « J'aime un club, mais ce club n'existe plus et c'est la fin du monde pour moi ». Voilà, c'est ça, c'est terrible.
Saïd Hamda, un carton sans véritable
sans
couleur.
Un carton, on va sortir de cette configuration-là. C'est pour Luis Enrique, qui a perdu sa fille de 9 ans, Xana, d'un cancer. On le rappelle, il avait démissionné de son poste de sélectionneur d'Espagne pour passer les quelques mois qui lui restent avec sa fille. Donc voilà, grand hommage à cet entraîneur.
Le sport continue sur RFI ce week-end. Mondial Sport, samedi, dimanche, 21h30, temps universel. Merci à vous tous d'avoir participé à ce Café des Sports. Radio Foot revient lundi. En attendant, excellent week-end à l'écoute de RFI.